Bonjour à toutes et à tous, économie, finance, investissement, épargne, prise de tête aussi.
Prospective, on dit.
Ah oui, prospective, voilà. C'est un petit peu les thématiques, le menu des chroniques financières sur CFM, un programme toutes les semaines à cette heure-ci avec Steve Bonneau aux manettes. Bonjour Steve.
Salut David.
Tout va bien ?
Oui.
Steve, on le rappelle, conseiller en investissement, hein, ICA Finance en plein cœur de la préfecture de l'Aveyron,
c'est
comme
ça.
On dit Rodez, quoi, tout simplement. Steve, avec toi cette semaine, oui, épargne, investissement et compagnie, là, prise de tête un peu aussi parfois, géopolitique, n'oublie pas.
Ah mais
pas,
toujours.
Toujours. Mais alors peut-être avant qu'on s'intéresse ce qui se passe là, au Moyen-Orient de nouveau. Un petit mot, oui, sur le côté plus finance, investissement et la bulle IA, comme on dit,
ouais.
Dont tu nous parles depuis un petit moment.
Alors, ça la possible,
voilà,
bulle IA.
Voilà, ça n'a pas explosé, on le saura, on serait plus là. Moi, je serais plus là. Voilà. Mais bon, donc, elle n'a pas explosé, mais effectivement,
pas encore.
De plus en plus de gens se font des... On parle, et ce qu'on constate sur les marchés, c'est que, oui, il y a eu comme, pas une gamelle, mais enfin, un certain coup d'arrêt, des coups de moins bien pour certaines des valeurs dans ce monde-là. Et on se demande un petit peu ce qui se passe, et toi aussi, ça t'intéresse beaucoup, parce que t'as de la culture.
Ah oui.
Ah ouais, la culture ben financière, oui.
Oui, si tu veux, ça m'intéresse beaucoup, parce que tout simplement, ça me rappelle... quand même ce qui s'est passé dans les années 2000 en particulier. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé
oui.
de cette bulle internet et des dot-com. Et il y a certains côtés, certains aspects de cette bulle qui, je trouve, ont des résonances avec ce qui se passe actuellement. Donc moi, l'événement majeur des années 2000, ça a été, et je crois que j'en avais déjà parlé, l'introduction de Palm. Je crois que c'était en mars 2000, qui a vraiment été, disons, pour moi, le déclencheur, en tout cas, de la catastrophe.
Alors, Palm, on rappelle Palm Pilot, à un moment donné, pour les plus jeunes là, d'entre nous, c'était des genres d'agenda électronique.
Oui, c'est ça,
grosso
modo. Exactement,
ouais,
c'est une sorte de précurseur des téléphones actuels.
Téléphone,
voilà.
Voilà, tout à fait.
Mais donc, tu vois, on retrouvait cet engouement pour toutes les valeurs technologiques, il y avait beaucoup d'argent
qui
circulait. Hein, puisqu'il suffisait à l'époque d'un business plan pour lever des millions.
Sur une feuille A4.
Oui. Non,
même écrite à la main, c'était bon.
Voilà, à partir du moment où tu avais dot-com derrière, tu avais tes chances.
Ouais.
Et en fait, donc lorsque Palm a été introduit, sauf erreur, c'était en mars 2000, la valeur avait fait quelque chose d'assez remarquable. Elle était montée très très haut le premier jour de cotation et elle s'était littéralement effondrée jusqu'à... clôturé en dessous de son prix d'introduction.
Le jour même ou
le jour même.
Le jour même. Ah oui.
Alors, ça, c'est un détail intéressant parce que quand on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, et je prends comme cas d'école l'introduction de SpaceX.
Oui, on va en parler.
Oui. Alors, on voit qu'il y a eu aussi cet engouement très fort puisque ça a été introduit à 135, c'est monté au-dessus de 200 dollars. Et là, on a clôturé hier sur des niveaux de 119.
Ouais, 120. Voilà.
Alors, ce que je trouve intéressant dans cette dynamique et qui est comparable jusqu'à une certaine mesure avec ce qui s'est passé sur Palm, c'est qu'on a le même phénomène d'introduction, de prix très très enflammés, on va dire, et après une chute marquée hein, des plus hauts vers des niveaux qui sont bien en dessous du prix d'introduction. Là, c'est potentiellement pas fini, je pense pas que ce soit fini.
Ouais.
Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est la même chose. Oui, pas tout à fait encore.
L'histoire ne se répète pas toujours
non.
Exactement.
Ouais. Elle se répétera, si tu veux, lorsqu'on verra les introductions de OpenAI et Anthropic, si jamais on les voit,
parce que
c'est
oui.
pas garanti.
Alors, voilà, ça, tu nous en as parlé il y a quelques semaines, on savait pas la date, on la sait la date ou pas ?
Non, on la
toujours
sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ça va être très dépendant des conditions de marché et que l'IPO de SpaceX et de SK Hynix, donc ces fameux Coréens qui ont été introduits et qui ont levé vraiment une très très grosse somme, je crois, c'est 25 ou 26 milliards de dollars.
Ouais.
Comment tout ça, c'est en train de se passer. Pour SpaceX, on sait.
Ouais.
Pour SK Hynix, c'est encore un petit peu tôt. Hein. Mais grosso modo, c'est scruté à la loupe, hein, savoir si ça vaut le coup, finalement, de tenter le diable et d'aller sur les marchés, alors que les conditions sont peut-être plus aussi enthousiasmantes qu'il y a quelques mois.
Ils font quoi, SK Hynix ?
C'est Samsung, en fait, ils font des puces électroniques.
Ah ouais, c'est comme du solide. Enfin,
c'est des choses
concrètes.
C'est des choses qui sont très, très en demande, justement dans le cadre de l'écosystème intelligence artificielle. Or, qu'est-ce qui se passe ? Quand on regarde les résultats de Samsung, les résultats d'ASML et toutes ces boîtes qui sont très bon.
Ah ouais, ouais.
Samsung, ça a été multiplié, je crois, par un chiffre de dingue.
Par 2000,
hein,
voilà. Enfin, voilà, oui.
Le marché sanctionne derrière.
Eh oui, oui, c'est ça que moi
donc je comprends. Donc, il y a vraiment des doutes sur la rentabilité massive, enfin, sur la rentabilité des investissements massifs dans l'IA, qui font que c'est peut-être pas si bon que ça pour ces valeurs de s'introduire sur les marchés. Là où ça va devenir vraiment très très sport, c'est si on arrive dans une même configuration que Palm, c'est-à-dire en termes de vitesse de rotation quelque part, tu vois, en disant c'est introduit et la même séance de cotation, ça va taper un plus
direct,
haut et un plus bas. Là, je pense que ça sera un très très mauvais signal.
Du coup, là, pour l'introduction des deux, ça, tu dis les conditions de marché. Les conditions de marché, c'est quoi? C'est justement l'ambiance générale qui fait que tu dis hop, 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 c'est comme quand tu mets les pieds dans l'eau. Hop, non, la froide, je veux pas.
Exactement.
C'est ça. Ah, d'accord.
Et là, ces conditions de marché, elles dépendent de l'engouement, de l'enthousiasme pour l'IA, etc. Donc voilà. Deuxième facteur très important, on en parlait juste à l'entrée, c'est qu'il y a les Chinois qui viennent maintenant aussi avec des modèles qui sont très compétitifs, pas uniquement en termes de performance, mais aussi en termes de prix. Et donc là, ça pose une vraie question, parce que peut-être contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même eu aux US des centaines et des centaines de milliards de dollars investis dans les infrastructures, qu'il va bien falloir rentabiliser.
Oui, oui.
Je sais pas ce qui se passe en Chine du point de vue de ces investissements ou comment ça se passe, mais le problème, il est bien aux US pour l'instant.
Mais alors si jamais c'est OpenAI là et l'autre c'est quoi?
Anthropique.
Anthropique, oui, donc voilà, les grands modèles de langage américains pour le coup, certains d'entre eux. Donc si tu dis risque à l'introduction, du coup peut-être si ça se trouve ils iront même pas, mais en même temps s'ils y vont, ça peut se casser la gueule, mais s'ils y vont pas, j'ai envie de te dire c'est encore comme s'il y a le marché, c'est encore pire.
C'est encore bien sûr.
C'est pas mieux quoi.
Bien sûr. C'est vraiment à observer de très très près, parce que là t'as vraiment des signaux de bear market presque.
Le marché
va se retourner. C'est-à-dire que la mentalité du marché va se retourner. C'est-à-dire que de stars incontestées des investisseurs. L'intelligence artificielle risque de se retrouver en queue de peloton.
Un peu comme le Bitcoin.
Ouais, c'est un petit peu mieux en ce moment, mais guère mieux. Ouais, 65 000, on est.
Quand t'as acheté à 125, qui est encore pas.
Et je rajoute, et on en avait parlé déjà dans une émission précédente, que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui a démarré dans les années 50. Ça date pas d'hier. Il y a eu des périodes fastes comme ça de l'intelligence artificielle avec des très longs hivers. Ça sera peut-être le cas aussi. Sauf que là, la différence. Toutes ces infrastructures qui ont été financées.
Tu vois,
ça sera peut-être pas le même effet.
Le Palm, l'histoire que tu nous racontes au moment de la bulle Internet, donc les chiffres, enfin l'introduction, ça a eu lieu en mars 2000. Hein,
Me semble.
Et quand ça s'est cassé la gueule, je me rappelle, c'était à quel moment de l'année? C'était l'été ou c'était à la rentrée? C'était quand?
Non, je crois que c'était au mois de mars.
C'était quand vraiment la bulle Internet a explosé?
Ouais. La bulle Internet a explosé peu de temps après.
Je me demandais. Il y a eu un effet d'entraînement, quoi. Rapide,
voilà. Ouais. Et pour moi, si tu veux, j'interprète ça, cette introduction de Palm telle qu'elle s'est passée, comme vraiment le signal de changement dans l'approche du marché à toutes ces problématiques d'investissement sur les dot-com. C'est-à-dire que d'un marché qui était vraiment,
euphorique.
Oui, qui croyait vraiment au business model, que ça allait tout révolutionner. On a basculé sur un marché qui a cherché à profiter un maximum tant que c'était possible. C'était courage fuyon. On ramassait tout ce qu'on pouvait. Et puis, il advienne que pourra. Et c'est précisément ce qui s'est passé.
Là, SpaceX, on en reparle. Donc, introduction, c'était au mois de juin, là, mi-juin, début juin, à 135. C'est monté à 200.
Au-delà même, je crois. 200,
un petit peu plus de 200 dollars. Bon. Et là, hier, on était à moins de 120 dollars.
119, voilà. 31, je crois.
119. Donc, déjà, même quand tu as acheté le prix d'introduction, t'es pas bien. Parce que ça fait déjà 10% à récupérer. Il faut que ça décolle vite fait, là, les fusées.
C'est ça.
Faut qu'ils disent attendez, j'en ai une, j'avais caché, je l'envoie là, tu vois. Ouais. Pour que ça monte comme ça. Palm, Palm, d'ailleurs, ça existe encore, Palm?
Non, ça a été racheté à de multiples reprises. Par 3Com, je crois, de mémoire, ou des grosses boîtes comme ça. Ça a été intégré, dans d'autres.
Dissous.
Exactement.
On a gardé les ingénieurs, mais le reste, et encore. Et donc, Palm, c'était quoi le taux de chute,
Ah ben, vertigineux, t'étais monté.
C'était pas divisé par 10 en 3 semaines quand même.
Non, mais ça a été très très décroissant assez rapidement, très très rapidement. Hein, donc là, c'était pas beau à voir. Quoi. Ouais, ouais.
Parce que là, la courbe, elle est pas belle. Hein,
Alors c'est la même chose, sauf mais que pas, c'était beaucoup plus concentré.
Voilà, là c'est pas une descente à pic.
Non,
c'est pas une descente à pic.
Non, sur SpaceX.
Ouais.
Mais c'est ça qu'il faudra regarder sur les prochaines IPO si jamais elles arrivent.
Ouais, ouais, d'accord.
Tu vois cette vitesse en fait de prise de profit de tous ceux qui ont été servis à l'IPO.
Parce que SpaceX, quand même, bon, là on parlait de l'intelligence artificielle, bon, il doit y en avoir dedans, mais j'ai envie de te dire, le mec peut te dire, attendez, vous n'avez pas compris, moi je fais pas de l'intelligence artificielle, je fais des fusées. Et là, les fusées, bon, bah, les fusées, c'est quand même l'avenir, il faudra bien qu'on y aille.
Oui,
dans l'espace.
Alors, oui, sans doute, mais bah, ça pose
pas nous, mais bon.
Ah, oui. J'espère que si, on verra bien.
Ouais, j'attends de voir quand même. Je suis pas en premier. Hein. Vas-y, monte, vas-y d'abord.
Vas-y, ouais. Non, mais ça pose la question en fait de la pérennité du business model d'une boîte comme SpaceX. Parce que SpaceX, en fait, ils vendent très bien des prestations de mise en orbite et peut-être d'autres choses qui seront beaucoup plus rémunératrices. Et c'est sans doute ça que le marché a pricé.
Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de rémunérateur ?
Prends par exemple l'engouement de tous les États pour revenir sur la Lune de manière pérenne. Ils parlent tous d'essayer d'établir des...
Ils parlent tous, il y en a deux qui en parlent.
Ça suffit. Non, mais je veux dire, tu as deux grands pôles, effectivement. Peut-être même trois si tu ajoutes la Russie, mais enfin, bref, qui était une très grande puissance spatiale.
Qui était, quoi, c'est ça l'imparfait, hein. C'est ça le problème. Ouais.
Et donc, en fait, si tu pars du principe qu'on va faire des habitations durables pour de la recherche scientifique, bien sûr.
Bah, évidemment. Bah, évidemment.
Sur la Lune, par exemple, il faudra bien amener à faire des transits Terre-Lune assez réguliers. Mmh. Et là, potentiellement, le business model de SpaceX prend tout son sens. Il faut amener le matériel, il faut amener les équipages, il faut les ramener, etc., etc. Donc là, tu peux avoir effectivement un business model qui fasse sens.
Ouais,
bah là, mais en attendant, on n'y est pas.
Ah bah non, parce que j'ai envie de te dire la perspective.
On n'y est pas.
Ça peut-être, mais la perspective, parce que donc moi je me rappelle, il y a quelques années, Musk, il nous a annoncé, on est sur Mars en 2025.
C'est vrai,
il est même pas sur la Lune. Hein. Bon, donc bon.
Donc la tâche est gigantesque. Mais en plus de ça. Elle dépend pas de l'entreprise en elle-même, elle dépend du donneur d'ordre derrière.
Et oui.
Moi, si je devais acheter des actions SpaceX, j'attendrais de voir qui est la première brique posée sur la Lune.
Ouais, qu'il y a une volonté concrète.
Non seulement la volonté, les moyens, l'exécution.
Oui.
Ça fait beaucoup de choses.
Parce que là, bon, donc les clients de ces trucs-là, il y aura peut-être des boîtes privées, pourquoi pas, qui voudront se faire leur propre base. Mais déjà, ils sont en train d'acheter des processeurs, ça leur coûte cher. Alors, les investissements pour des villes sur la Lune, bonjour, quoi. Bon. Donc, en attendant ces trucs-là, les investisseurs, c'est les clients, c'est les États-Unis.
Exactement.
C'est des trucs, c'est pas.
Bah, c'est la NASA.
La NASA. Donc, bon, je sais pas. Il y a pas un sentiment. Je vois pas où est le sentiment d'urgence de faire ça, à part d'être les premiers devant les Chinois.
Après, voilà. Mais ça, c'est toujours la course géopolitique. Ouais. C'était la même chose à l'époque de Spoutnik, où là, il fallait vraiment être les premiers à aller sur la Lune, etc. Bon, très bien. Ça a son importance, mais de là à transformer en fait en business model, parce que rappelle-toi, une fois que les Américains ont été sur la Lune, l'intérêt du public, terminé. Donc, pas d'intérêt, pas de financement, tu coupes tout. Quoi.
Ouais. Et puis en plus, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de mine d'or non plus. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de perspective de gagner de l'argent au final.
Voilà, alors là, pour le coup, moi, je ne sais pas, moi, ça me semble être intéressant dans l'idée, mais acheter SpaceX à ces niveaux maintenant, dans cette configuration, jamais de la vie.
D'accord. Et alors, t'attends que ça se casse la gueule à combien ?
Ah bah ça, c'est difficile à dire.
Combien ça vaut, quoi ?
Là, pour l'instant, la boîte perd de l'argent. Donc, ce qui fait le cœur du réacteur de la valorisation d'une boîte comme ça, c'est les perspectives futures. Donc là, tu es en train de dire la boule de cristal. Savoir si ça vaut 200 ou 25.
D'accord.
Pour l'instant, on ne sait pas. Personne ne sait. Le marché, ni toi ni moi.
Ouais, donc là, ça n'aide pas quand tu investis sérieusement à te dire, tiens, je vais en acheter.
Ah bah non. Oui. Non. Et là, tu vois bien ce qui se passe. En fait, les gens qui sont rentrés, c'est sur de l'engouement purement spéculatif.
Oui, un peu.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sortis. Et maintenant, il n'y a plus forcément d'acheteurs. C'est pour ça. Je pense que le cours n'a pas fini de descendre.
Bon, on va surveiller tout ça. Parlant de cours, pareil, moi, tu sais, à force de regarder suite à ces émissions, quelques petites infos à droite à gauche, Google m'en envoie plein. C'est plus tu t'intéresses à un sujet, plus bon, bref, tu crois que tout le monde est au courant. Non, c'est juste toi parce que tu regardes déjà. Bon, une entreprise française.
Ah,
une grande entreprise française, en plus, une très ancienne entreprise française dont tout le monde se foutait. Il y a encore pas si longtemps que ça. Air Liquide, j'ai entendu parler de ça. Ils commencent à... Même les Américains se disent, ça coûte combien? Vous me vendez? on en prendrait bien, on prendrait bien un morceau. Et, parce qu'ils font... Alors Air Liquide, c'est des... Alors moi, je sais pas. Pour moi, Air Liquide, c'est pour faire le au camping. C'est
une... Mais ils font des gaz industriels.
Mais voilà, ils font des gaz et qui servent notamment aux puces, machin. Enfin, tout ça, c'est... Bon, j'ai rien compris. Mais... et donc, Air Liquide... Une belle entreprise française.
Très, très belle entreprise
française. T'en as de l'Air Liquide? Parce que souvent, c'était présenté un peu comme défensif, ça, Air Liquide.
Très défensif.
Ça bouge pas, ça bouge jamais. C'est sérieux. Je vais pas dire que c'est familial, mais presque.
Oui, bah c'est, non, c'est une très belle entreprise. Mais comme tu dis, c'était une valeur de fonds de portefeuille. T'as acheté ça et tu laissais, tu laissais dedans, ça montait pépère, hein, tranquillement. Ça te payait un petit dividende.
Ah, bon. Ah c'est petit dividende. Parce que là, cette année, ça a pas monté, c'est pas monté gentiment, c'est monté sérieusement.
Alors, peut-être que tu vois derrière, il y a autre chose, effectivement, qui se profile.
C'est depuis le début de l'année, c'est, je crois que c'est, ça a pris 30% ou 40% par rapport au CAC qu'on a pris 1.
Ouais,
deux peut-être, je sais pas. Non mais ils ont voilà, là ils en parlaient dans les grands institutionnels, je sais plus, c'était des banques américaines qui passaient à acheter sur Air Liquide la semaine dernière, mais en fait ça fait 6 mois qu'ils achètent les mecs.
oui non mais ça c'est classique, c'est les phases d'accumulation. Tu vois, discrètement t'achètes.
Donc Air Liquide t'en as toi en fond de portefeuille?
On en a sur certains portefeuilles, mais c'était vraiment des portefeuilles très très défensifs.
Hein. Ouais, donc, apparemment ça devient offensif.
À voir.
Ouais, à voir. Parce qu'une fois que c'est bien monté, ça, pareil. Ouais. À un moment donné, tu vas te dire, bah, attends, là, c'est 15 ans de hausse de Air Liquide en 6 mois, je vais prendre.
Non, mais c'est peut-être un signal faible. Ouais. Tu vois, s'il se passe quelque chose, effectivement, sur une boîte comme Air Liquide, il faut essayer de savoir pourquoi. Mmh. Donc, tu me disais, les gaz industriels, peut-être pour les puces, les refroidir.
Ouais, c'est ça, pour les puces, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai lu l'étude, là, c'est ça. Bon, j'ai rien compris, hein, mais ils fabriquent des. Ça représente en plus, il disait. L'activité d'Air Liquide, ça représente que 7% du chiffre. C'est un petit truc. Mais bon, du coup, il y a de la marge. Parce que, grosso modo, dans Air Liquide, il parlait des deux autres concurrents, de un japonais et un je sais plus quoi. Mais les autres sont encore plus petits qu'Air Liquide. Enfin, on est quasiment. Enfin, tu vois, il y a une belle position de départ, quoi.
Je me demande si c'est pas l'italien Sol.
Peut-être, je sais plus. Hein, c'est pas. Je suis quasiment sûr un japonais, un coréen, et l'autre peut-être européen, ouais.
Ouais, d'accord.
Je crois même pas que les Américains soient dans le coup là.
Mais parce que c'était des trucs très industriels de base. Enfin, c'était pas très très sexy, hein, Air Liquide.
Bah apparemment, mais
peut-être que c'est en train de changer.
On va voir. Du coup, maintenant, je surveille.
Bien.
Air Liquide. Tiens, où est les marchés? On continue de surveiller. Donc, alors, pareil, on va recommencer par le soleil se lève à l'est. Donc, par l'Asie.
Alors,
ça s'est cassé la gueule et c'est remonté.
Ça remonte parce que t'as quand même des.
Mais Japon, ça va pas. Japon, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je trouve que Japon, ça va pas.
Le Japon, d'ici 2-3 ans, c'est un truc qui fait 100 000.
On est à 60 là.
70.
70.
On est remonté.
Hein. Bah, on est remonté. Okay. D'ici 10 ans?
2 ans.
2 ans. Ouais, moi, je suis pas sûr que les Chinois soient d'accord.
Ah oui, non, mais là.
Ils laisseront pas faire. Mais bon, écoute, moi, je trouve qu'il y a un problème avec le Japon. Mais enfin, en tout cas, effectivement, c'est remonté. La Corée. Moi, je te dirais plutôt la Corée, c'est à 100 000 dans 3 ans. Là, je crois plus là.
On va voir. On va voir. La Corée est très technologique. Donc, la Corée, tu as Samsung et SKNX qui doivent faire, je sais pas, 40% de la côte. Donc,
mais ils font aussi des bateaux, ils font des bagnoles.
Ouais, ils sont plus tout seuls à faire bateau-bagnole. Il y a du monde. Hein.
Ouais. Donc, ça, ces marchés-là, donc, ils sont particuliers.
Non, mais attends, ceci dit, c'est un marché que je regrette.
Oui, tu l'as dit. De ne pas être monté à bord au bon moment.
Exactement.
Sinon, chez nous, on reste dans le mou. Hein, pareil aux États-Unis. D'ailleurs.
C'est pas catastrophique.
Bah non, c'est pas catastrophique.
Mais voilà, c'est mou.
Ouais. Donc on arrive à la période du plein cœur de l'été là. Dans ces situations-là, sachant que c'est mou, mais sachant quand même qu'il y a des incertitudes là, des craintes, parce que là, tu nous as quand même parlé de la bulle Internet, ça va être une.
Ah oui, c'est un truc, il faut quand même être prudent.
Une catastrophe. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avant de partir en vacances? On prend ces sous là où on en a à prendre. J'imagine qu'on n'achète pas des petits trucs en se disant je reviens dans un mois, ça va aller.
On fait quoi? Si tu veux, dans les portefeuilles, ce qui va compter vraiment beaucoup plus que n'importe quoi d'autre, c'est la structure de ton portefeuille.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, dans les grandes masses, partie cash, partie obligataire. Bon, moi, j'aime moins la partie obligataire. Je préfère la partie gestion alternative à la place.
Hedge fund.
Et partie vraiment action. Voilà, c'est comment tu vas, si tu veux répartir tes avoirs entre ces grosses masses, à l'intérieur, c'est pas que tu t'en fous, mais peu importe,
d'accord,
tu gardes.
Ouais. Ah, tu gardes. Et donc, mais quand même, quand tu dis ouais, la construction du portefeuille, là, tu déplaces un peu plus vers les fonds alternatifs, comme tu nous as dit depuis plusieurs mois, t'es là-dessus.
Exactement.
Hein. Ouais, d'accord. Okay. Et donc, ça, c'est plutôt défensif, non?
Alors oui,
c'est plutôt dans, je sais pas.
C'est entre les deux.
Ouais, voilà.
Si tu veux, c'est plus pragmatique, plus opportuniste. Mmh. Parce que je rappelle le principe, un hedge fund, donc a la possibilité d'acheter des actions, mais de vendre à découvert d'autres en même temps dans son portefeuille.
Oui, oui, oui.
Donc tu viens un petit peu neutraliser le risque de marché. Mmh. Et ce qui va être important pour toi, c'est que tu gagnes relativement plus sur la valeur que tu as achetée que celle que tu vends. Ou vice versa.
Voilà. D'accord.
Okay, sur ta position, il y en a. Voilà. Tu dois être dans le bon sens. Plus, ouais.
Bon, on va suivre ça. On va encore en parler la semaine prochaine avant de partir en vacances, Steve.
Exactement. Hein?
Merci beaucoup à toi. Bonne semaine. Donc là, on a 120 sur SpaceX.
119.
Soyons précis. Non, mais t'as raison. Parce que en plus, 120, c'est un chiffre rond.
Ouais, exactement.
C'est plus rond, quoi. Donc la semaine prochaine, à ton avis?
Ah, ça baisse. À mon avis, je vois pas ce qui pourrait faire rebondir la valeur de manière pérenne.
Et ben, on en reparle la semaine prochaine. Salut, Steve.
Ciao.